Ce podcast de Comic City est sponsorisé par Pulps Bordeaux, votre choix de comics, statuettes, toys et produits dérivés en Gironde. Ouvert du mardi au samedi de 11h à 19h, toute l'équipe vous attend 56 rue du Loup ou sur la page Facebook du magasin. Bonjour à tous et bienvenue sur le 139e Comics Weekly. Après une petite semaine de pause du OLCF, nous revenons pour les reviews de la semaine, les sorties comics VO. Et on va commencer par du DC avec notamment du Batman. Nous parlerons aussi d'Indé, Walking Dead, Saga ou encore X-Zero, saga qui a fait énormément débat cette semaine. Nous terminerons par du Marvel, la fin du premier acte d'Age of Ultron. Nous parlerons aussi de toutes les séries Avengers ou de Uncanny X-Men. Et en conclusion d'émission, le tour des TPB. Je suis Steve et vous écoutez le Comics Weekly. Avec moi ce soir pour parler des sorties de la semaine, Bruno.
Ouais, salut les fans de comics.
Benny.
Ouais, bah du coup, bonsoir à toutes et tous. Hein.
Et Florent.
Coucou les amis, il faut vraiment que je trouve une punchline parce que j'ai du mal.
Et moi j'ai envie de dire bonjour aux amis qui tricotent aujourd'hui, je ne sais pas. Après les fans de comics, peut-être des gens se sont-ils perdus sur ce podcast, on ne sait jamais.
On ne sait jamais.
Oui, tu sais, tricoter, ça existe encore, hein, je te rassure.
D'accord, d'accord. Non, mais on dirait la présentation de, je sais pas, de Monsieur Chaussette. Bonjour à tous les amis qui tricotent.
Enfin, Monsieur bref. Chaussette. Allez, on va essayer de reprendre notre sérieux et on va commencer cette semaine de comics par le Batman numéro 19. Batman, donc, qui est écrit par Scott Snyder et dessiné par Greg Capullo, ancré par Danny Mickey.
What
en
the
tout
fuck
cas, pour la première histoire, et oui, what the fuck, il n'est plus entré par Jonathan Glapion, mon dieu.
Étonnant.
C'est pas si mal, hein, finalement, ancré par Danny Mickey.
Ah, bah on va en parler un peu, c'est même vachement bien, je trouve.
J'ai
et
pas
c'est
vu,
pas vraiment, vraiment what the fuck du numéro.
Ouais, j'ai pas vu la différence, honnêtement, je m'en rends compte seulement maintenant.
Petit peu.
Oh, quand même, ouais, il y a un côté, de toute façon, c'est Danny Mickey et Greg Capullo, il y a un côté un peu plus image, hein, moi, je trouve, dans le style graphique.
Ça a été son encreur quand même pendant des années, ouais. Danny Mickey, hein. Donc il le connaît bien. C'est un petit peu plus fluide, je trouve, un peu moins anguleux.
Ouais, c'est, très beau. c'est vrai.
Je trouve ça vraiment très beau.
Bah, c'est un peu plus blanc, un peu moins dark, j'ai envie de dire, justement.
Ouais, c'est vrai.
Bon, j'ai essayé de trouver une vanne là tout de suite, mais c'est pas venu.
Non.
Je t'en prie, enchaîne sur le résumé, il n'y a pas de problème.
Justement, le résumé, on commence avec, bon, déjà cette cover What the Fuck, si vous ne l'avez pas vu, on voit Batman, enfin en tout cas Bruce Wayne qui tient un flingue et ouais. Qui met en joue le commissaire Gordon. C'était la fameuse What the Fuck cover qui a été spoilée, donc c'est pour ça que je me permets d'en parler. Et l'épisode commence avec un Bruce Wayne qui a pris une meuf en otage à la sortie d'une banque. Et oui, puisque Bruce Wayne étant tellement riche, il décide de braquer des banques. Et après, il va mettre un grand coup de shotgun dans la face de Jim Gordon.
Et il va partir en moto et il va écraser Gordon au passage.
Il va lui rouler dessus. Ouais.
Ça, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Et même Gordon a l'air d'un con. Tu fais, oh bah mince alors. Parce que c'est tellement hallucinant comme scène que bon.
Enfin, il s'est quand même pris un coup de fusil à pompe dans la poitrine, puis roulé dessus. Donc je m'inquiéterai sur les prochains numéros sur l'état de Jim Gordon de même. Parce que c'est.
Mentionnons quand même ce qui a lieu sur la deuxième page, cette phrase de Jim Gordon qui nous annonce « On était amis depuis avant la Zero Year ».
Eh oui.
Comme c'est étrange.
Non, mais il dit ça, il dit la Zero Year.
Oui, il dit la Zero Year, oui, bien sûr.
« We've been friends since before even the Zero Year ». Ça veut dire que Zero Year, c'est plus qu'un nom d'art, c'est un événement, il s'est passé
c'est,
un...
C'est copyright, c'est un truc, tu sais, ouais. Batman, il a fait copyright Zero
Year. Je sais pas, est-ce que c'est...
Zero Year.
Est-ce que c'est pas Scott Snyder qui essaye peut-être de poser un pseudo-indice et surtout essayer de créer une certaine attente vis-à-vis de son prochain event. Moi, enfin, j'ai lu comme ça, je me suis
c'est
dit...
C'est un peu ridicule.
Ça... Oui, c'était ridicule. Ouais, voilà, exactement, j'ai lu ça, j'ai fait... Ouais, ouais.
C'est comme si James Gordon, la semaine prochaine, il te dit « Ah, tu te rappelles, on était tellement potes, on se faisait des soirées barbecue avant les New 52, et puis maintenant, là, qu'est-ce qui se passe ?»
On s'est rencontrés pendant Batman 353, tu
non,
sais,
non, mais
rappelle-toi.
Attends, ça veut dire quand même que Zero Year, c'est Jim Gordon, il en parle, et il en parle à Bruce Wayne, il en parle pas à Batman, d'accord, déjà. Donc c'est quand même important, parce que c'est un truc qui va toucher Bruce Wayne. aussi.
C'est un truc
Donc...
qui va peut-être toucher Gotham dans son ensemble, au fait. Ça va être un événement.
Ouais, mais...
Peut-être ça, voilà, ça peut être ça, ça peut être ça. Bon, voilà.
Bah,
mais
le truc,
au moins, c'est un nom, quoi.
Ça reste intriguant, mais c'est que la façon dont c'est amené, ça fait un peu gros sabot, quoi.
Ouais.
C'est, en fait, moi, c'est plus ça qu'imaginer, la façon dont c'est dit. Ça donne vraiment l'impression, ouais,
ça manque de finesse,
un
voilà.
Petit cassage du quatrième mur, quoi. On,
oui. Ah oui, en même temps, c'est Jim Gordon qui essaie de calmer le jeu, qui essaie de faire le négociateur et tout. Voilà, il en appelle aussi à ses relations qu'il a avec Bruce.
Donc, après avoir vu cette petite séquence d'introduction qui rentre dedans, hein, mine de rien, on se demande un peu ce qui se passe.
Ouais. Bah, on le devine très vite après, malheureusement.
On le devine très vite. C'est vrai que la surprise était montée à la fin de ce numéro. Si on n'avait pas encore compris déjà, et on revient quelques jours auparavant, et on va suivre une enquête de Batman sur un de ses ennemis, on va dire, relativement classique. Bon, voilà. L'épisode, moi, je l'ai trouvé sympa. Je ne vais pas en dire plus pour éviter de trop spoiler, parce que sinon, je risquerais d'éventer la surprise. Mais voilà, c'est pas mal. J'ai trouvé, en tout cas, dans cet épisode, que Batman faisait vachement joujou avec ses gadgets. Je sais pas si ça vous a paru ça aussi, mais il y a vachement plus de tech dans cet épisode que dans tout ce qu'on avait pu voir précédemment.
Bah, disons que ça fait une enquête classique de Batman, quoi. C'est ça qui est assez plaisant avec cet épisode. Finalement.
Oui, et que ce sera en deux, ça c'est cool aussi.
Non, oui, enfin voilà, c'est très classique. Donc moi c'est un épisode que j'ai bien aimé, mais reste que c'est très classique et très verbeux aussi, peut-être pour pas grand chose, parce que finalement il parle. Bon, alors c'est bien pour ceux qui connaissent pas le personnage en question. Par contre, pour les autres, bon, bah je pense qu'il y aura pas beaucoup de surprises là-dessus. Moi, pour la petite histoire, j'ai eu une grosse frayeur parce que j'ai pensé que c'était déjà la première partie de Zero Year, et donc en voyant le début, je me suis dit, putain, Snyder, il va nous apprendre qu'au fait, dans Zero Year, Bruce Wayne, c'était un ennemi de Gordon ou je sais pas quoi. Enfin, tu sais, je suis parti totalement en live dessus, parce que j'ai compris ça. Et au fait, quelques pages plus loin, je me suis revenu en arrière et je me suis dit, attends, je vais quand même regarder. Ah non, en fait, ça commence pas maintenant, c'est pas du tout ça. C'est juste un arc en deux, effectivement. Et je m'en étais pas rendu compte sur les premières minutes, quoi, de ma lecture. Bon, enfin bon.
Oui, non, mais du coup, c'est vrai que du coup, on se rappelle hier soir qu'après après l'enregistrement du spécial LCF, tu nous disais, je suis en train de commencer à lire le Batman, et tu disais, mais je comprends rien de ce qui se passe, ça a l'air trop bizarre, quoi.
Ouais, moi, justement, je m'attendais du coup à un truc énorme, je me disais, putain, c'est énorme. Et puis au fait, pas du tout, quoi, c'est un truc super classique, et donc, bon, voilà. Alors, pas déçu pour autant, mais disons que ça reste, voilà, ça reste sympa, sans plus, quoi.
Florent?
Oui, ben moi c'est mon coup de cœur de la semaine. J'ai beaucoup aimé déjà le fait de revenir à une enquête un peu classique, quoi, du vrai bon Batman, quoi. Il y a un peu d'action, il y a de l'enquête, il y a un mystère qui est pas résolu à la fin de ce numéro, donc qui est encore entier. Donc c'est ça que j'ai vraiment aimé. C'est pour ça que j'ai vraiment apprécié. Le vilain est bien traité, je trouve. Le cliffhanger est efficace. Il y a une bonne mise en scène, je trouve, de la part de Capullo. On sent vraiment que les deux s'entendent bien, parce que je trouve que les scènes d'action sont vraiment... on sent qu'il y a un truc, quoi. J'aime bien cette osmose entre ces deux créateurs. Et on n'en sait pas grand-chose pour le moment sur cette enquête, parce qu'on n'a pas parlé vraiment du sujet, finalement, du numéro, qui est une enquête sur un des amis de Bruce Wayne, quoi, qui semble s'être suicidé, mais c'est plus compliqué que ça. Pour le moment, honnêtement, on sait rien encore de ça, quoi. Le mystère n'est pas du tout résolu là-dessus.
On arrive à comprendre, hein, quand même, moi, je trouve, à la lecture de cette première partie, le mystère concernant son ami suicidé, on le comprend. Le mystère concernant le personnage de la galerie de vilains de Batman que l'on comprend pas, quoi.
Ouais, c'est ça, voilà, ouais, bien sûr.
Ouais, je pense, Bruno, que du coup, tu dois vachement regretter de ne pas l'avoir lu, enfin, de ne pas avoir eu le temps de le lire.
Ouais, tout à fait. Après, j'avais une question, c'est Snyder avait dit qu'on retrouvait un peu l'ambiance de la série animée. Est-ce que vous avez trouvé ça?
Ben, avec ce personnage-là, oui, en tout cas.
Oui. D'accord, ok.
Voilà, enfin, moi, en tout cas...
En rapport avec le méchant, quoi, du coup, ok.
Voilà.
Non, mais l'ambiance est là. Par contre, bon, c'est toujours un peu plus adulte. Hein. On va pas montrer ça dans la série.
Ah oui, c'est sûr. Oui, bien sûr.
Passons très vite au backup. Backup, donc écrit par James Tynion IV et dessiné cette fois-ci par Alex Maliv. Alex Maliv, qui est Moyenne forme, quoi, mais...
Qui me fait penser au mec qui dessinait avant pour Snyder sur Detective Comics, qui était...
Jock
Franck Avila
ou Franck Avila, c'est l'un ou l'autre.
Ça ressemble plus à Franck Avila, dans le style.
Ah, moi, je dirais que c'est un mélange des deux, quoi, en fait. Ça ressemble à du Jock et à du Franck Avila.
Ouais, enfin, c'est... Ça ressemble pas à du Jock. Enfin, les visages, tout ça, c'est moins... C'est assez gras comme Franck Avila. Et l'ancrage est beaucoup moins fin que ce que Malef faisait par exemple sur Daredevil, quoi. C'est moins fin et moins détaillé.
C'est du Malef qu'on reconnaît pas, quoi. Franchement,
c'est sûr.
Un peu bizarre. Et bon, bah le scénario, Steve, je te laisse en parler.
C'est Superman qui vient voir Batman en lui disant, écoute, faut qu'on parle, quoi. Je sais que ça va pas bien, et Batman il dit non. Et il lui dit, viens m'aider dans une enquête. Il y a des gens qui disparaissent dans cette maison, on sait pas trop pourquoi. Et voilà, je veux pas en dire plus. Découvrez ça par vous-même.
Pareil, ce sera un truc dégueulasse à la fin. Moi, franchement.
Ouais, un peu. Ce sera un backup en deux parties aussi.
J'ai trouvé ça sympa.
C'était sympa. C'était pas si mal. Hein. Bon, tu sens venir le truc assez rapidement.
Disons que c'est flippant. Ah, c'est flippant.
Mais voilà, moi j'ai trouvé ça pas mal. Finalement, ce numéro 19 de Batman, c'est un bon numéro, quoi. Moi, en tout cas, pour moi, c'est un bail.
Pareil. Ça m'a vraiment contenté.
Petit bail pour moi, puisque c'est sympa, mais sans plus.
Oui, mais certes, mais bail quand même.
Mais bail quand même.
Allez, on va passer à la suite, c'est Batman et Red Robin, numéro 19, Bruno.
Oui, Peter J. Tomasi au scénario, on a Patrick Gleason au dessin, avec Mick Gray à l'ancrage. Le nom de ce numéro, c'est Denial. Et donc, on a une cover What the Fuck qui mérite bien son nom. Puisque ce qu'on voit en découvrant ce qui se passe dessus est assez étrange, ça met tout de suite l'eau à la bouche pour savoir ce qui se passe dans le numéro. Qu'est-ce qu'on a dans ce numéro ? On a en fait un Bruce Wayne toujours qui a du mal à passer à autre chose après la mort de son fils et qui essaie de trouver une solution. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc là, on a un Batman qui se rase pas, qui a une idée complètement farfelue, à savoir, il se dit qu'il va peut-être pouvoir ressusciter son fils en étudiant en fait le processus qu'a utilisé le docteur Frankenstein pour créer la créature de Frankenstein. Donc dès le début du comics, on voit Batman qui kidnappe carrément ce pauvre Frankenstein qui était en train de combattre une armée de démons. Voilà, il était tout peinard, tranquille, en train de décapiter des vers et des choses, des cochonneries, quoi.
Normal.
Et t'as Batman qui arrive avec son Batplane et qui le chope et qui l'emmène. Et donc voilà, et après il le capture et il essaye de déterminer comment en fait Frankenstein a été créé et est-ce qu'il est possible de ressusciter quelqu'un tout en gardant quand même une certaine âme donc voilà. Donc t'as Frankenstein qui essaye de lui dire que c'est pas vraiment quelque chose à faire et puis t'as aussi Red Robin qui rentre en jeu dans cette histoire. Moi j'ai trouvé le numéro vraiment intéressant même si la réaction de Batman me paraît vraiment extrême. Pour quelqu'un qui quand même est quelqu'un qui calcule toujours un petit peu ce qu'il fait, là on a l'impression qu'il perd complètement tous ses repères.
Oui, c'est vrai, mais il y a aussi une double explication à cela. Autant il y a la mort de son fils qui l'a particulièrement affecté, fils que déjà il n'avait pas connu, il l'a connu que sur le tard, à 10 ans, il a perdu énormément de temps avec lui et on voit qu'il s'était rapproché ces derniers temps, mais il y a aussi le fait qu'il ait perdu toute la confiance de sa famille.
Exactement. C'est vrai que ça, pour ça, Peter J. Tomasi, je trouve qu'il a vraiment bien pris en compte ce qui s'est passé dans Batman Inc. et dans Death of the Family. Et c'est pour ça que l'écriture m'a plu. Et toute la partie qui concerne le What the Fuck, j'ai trouvé qu'elle était assez intéressante puisqu'elle montrait que, bah voilà, Damian, il avait une vie en dehors de ce qu'il faisait avec Batman. Et ça permet un petit peu d'enrichir. Le caractère du personnage et c'est triste quoi. Mais non, franchement pour moi c'est un très bon numéro. Qu'est-ce que vous en avez pensé vous?
Bah vas-y Flo, je t'en prie.
Oui, très très bon numéro. Alors c'est la première partie du numéro en rapport avec justement cette cover What the Fuck. Bon, on se demande s'ils ont rajouté ça juste pour la cover parce que bon, ça a pas une importance énorme quoi. C'est rigolo, mais je me demande si ça va avoir vraiment.
Mais c'est réutilisé dans le numéro, c'est ça qui est bien.
Et en trois pages, ils le rendent plus sympathique ce personnage que Harper Row, quoi.
C'est vrai, c'est pas faux. Non, c'est marrant parce que Pete Tomasi s'amuse quand même avec Frankenstein. Il l'écrit bien en plus, avec sa verve shakespearienne, là, c'est sa manière de parler à la con. Là.
Alors, Denis, on a bien dit verve, hein, avant que ça dérape.
Oui, j'ai rien dit.
De toute façon, le comité de la blague l'a banni, donc il ne peut plus dire de blague.
Ouais, c'est vrai.
Et concernant la réaction de Batman, c'est... Elle est excessive, mais bon, on sent vraiment le Batman accablé qui est prêt à tout. On dit, c'est un héros qui a l'habitude de tout contrôler et qui là, bah voilà, il l'a pas contrôlé ça et il va jusqu'au bout quoi. Et c'est du coup c'est assez drôle. Il y a des scènes assez drôles, avec, notamment quand Red Robin va aller chercher, c'est marrant. Ouais, c'est un gros bail, ça, voilà.
Ce que j'ai apprécié aussi, c'est la mise en scène de Gleason, notamment cette double page pleine de sutures pour faire la démarcation des cases.
Ouais.
C'est
très malin.
C'est malin, voilà. C'est pas l'idée du siècle, c'est pas le truc qui va révolutionner les comics, mais c'est malin et ça reste dans le thème. C'est vachement bien foutu, quoi.
Ouais, visuellement c'est pas mal, hein, quand même. Aussi, tout le numéro est vraiment bien.
Je sais pas vraiment quoi rajouter à ce que vous avez dit déjà. Cette opposition finalement entre Red Robin et Batman sur le pourquoi de la chose, enfin sur faut-il le faire, faut-il pas le faire. Voilà, tout ça est vraiment bien écrit et Batman continue de s'enfoncer. C'est pareil, la façon dont il traite Alfred qui est toujours aussi détestable. Tomasi a vraiment mis ça en avant. Je trouve que c'est encore mieux exploité ici que dans le Batman. Même si apparemment, dans le Batman et Robin, il s'est passé 6 semaines déjà depuis la mort de Batman.
Ça vous fait marrer de voir quelqu'un sombrer. Bah bravo.
Non, ça ne nous fait pas marrer. C'est juste que la façon dont il sombre est bien écrite.
Je sais, je plaisante.
Oui, c'est dommage de voir Batman sombrer, mais en même temps, ça lui fera les pieds un petit peu à se la péter trop, là, façon c'est moi le boss, et ben voilà.
Bah oui, bah quel connard.
C'est bien fait pour
sa
gueule.
Juste un truc, les Lazarus Pit, c'est un peu plus simple quand même, mais bon.
Oui, mais bon, il est censé ne plus
en rester
aussi.
C'est tellement convenu, et puis j'ai peur que justement Morrison nous sorte ça de sa manche dans Batman Inc. Enfin, j'espère pas, on verra.
Non, il l'a dit, non.
Mais
bon,
oui,
bah,
il avait dit c'est normalement
sujet,
que...
Bon, il a dit que non.
On verra ce que nous réservent les prochains numéros, en tout cas. En tout cas, je crois qu'on est tous d'accord, un bail, hein.
Ouais, gros bail pour moi.
Et Bruno, ton coup de cœur de la semaine, c'est ça. Florent, on va passer à toi, qui va nous parler du deuxième épisode de Constantine. Finalement, tu es le seul à avoir lu.
Oui, tout à fait. Constantine, numéro 2, coécrit par Jeff Lemire et Ray Fawkes, et dessiné par Renato Guedes, comme le numéro 1. On suit toujours John Constantine qui est à la quête en quête des trois pièces différentes qui composent le compas de Croydon, un artefact magique très puissant.
Je l'ai acheté au LCF. Hein.
il avait pu mettre la main le mois dernier sur l'aiguille du compas des mains de Sargon la sorcière, non sans avoir perdu un de ses bons amis au passage, mais ça John Constantine, bon, il a l'habitude de perdre ses amis pour des artefacts magiques. Et donc là, on le retrouve au Myanmar, donc en Birmanie, hein, où il est à la recherche du cadran, du compas. Et dès les premières pages, il se fait kidnapper. Il est à la sortie de l'aéroport et il se fait kidnapper par des enfants soldats. Donc c'est pas très drôle, en fait.
Excuse-moi.
Mais juste au moment où tu dis que c'est pas très drôle, il y a Bonnie qui rigole, bien sûr.
Non, mais il y a ce côté adulte, justement, qui est pas mal. Quoi. Il se fait kidnapper par des enfants soldats avec des Kalachnikov et tout. Et il se retrouve aux prises avec Mr. E, cet autre membre du culte de la flamme froide, le Cult of the Cold Flame, donc qui travaille avec notamment Sargon la sorcière. Et voilà, je vais pas vous raconter s'il arrive à s'échapper ou pas des griffes de ce méchant, mais on peut noter quand même qu'il fait la rencontre d'un personnage bien connu de l'univers de DC, un personnage magique qui s'appelle le Spectre. Je sais pas si on l'a déjà vu dans New 52, le Spectre.
Si. On l'a vu dans Phantom Stranger, très bonne série qu'il n'y a que moi que je lis.
C'est du beau français, ça.
Il n'y a que moi que je la lis, tu vois.
Et donc il fait la rencontre du Spectre qui, en tant que messager de la vengeance divine, va justement le mettre en face de tous ses péchés, quoi. Il joue son rôle de Spectre et Constantine, il a beaucoup beaucoup de choses à se reprocher. Donc c'est assez intéressant, c'est bien écrit, c'est toujours bien dessiné par Renato Guedes. J'ai toujours un bémol sur les couleurs qui sont un peu froides quand même. Ça, je trouve les couleurs vont pas, sont un peu artificielles. Mais c'est joli. Les personnages introduits sont intéressants, je trouve. Je suis pas passionné par le compas de Croydon, mais la manière dont c'est mené et le fait de le faire voyager, c'est vraiment sympa. Donc pour moi, c'est un bail. C'est pas pareil. C'est vraiment pas pareil que Hellblazer. Ça reste quand même plus sombre qu'une série d'ici normale, quoi. Ça reste quand même plus sombre. Donc c'est pas adulte, mais c'est quand même sombre. Donc c'est plutôt cool quand même. Je continue. C'est un bail.
Ok, donc tu iras voir la suite.
J'irai voir la suite.
On va terminer DC avec Benny qui va nous parler de son coup de cœur de la semaine, Superboy 19.
Eh oui, étonnant, Superboy, encore par Scott Lobdell, avec au dessin Diogenes Nives et Herbé Silva. Alors, décidément, Scott Lobdell me plaît bien en ce moment, je sais pas, il a décidé de faire des bons trucs. Donc là, c'est un épisode, au fait, uniquement centré sur le personnage de Harvest. Donc souvenez-vous de ce méchant avec la saga The Culling qui avait rassemblé les Teen Titans et qui avait aussi amené à la création donc de ce titre Ravagers, qui en plus va disparaître. Bon, mais néanmoins, Scott Lobdell donc décide de nous raconter de fond en comble les origines de ce personnage et c'est bourré de révélations. Et au fait, tout prend sens et on apprend au fait les véritables origines du même coup de Superboy. Alors, j'ai presque envie d'en dire un petit peu, mais je peux pas. Je pense, parce que de toute façon, ce serait dommage et ce serait...
Tu peux toujours en dire un petit peu, mais à condition de pas spoiler, hein, bien sûr. Mais là, tu es le seul juge.
Dès les premières pages, ça spoil de toute façon. Donc, au fait, c'est vraiment que des révélations les unes après les autres. Et ce qui est très bien foutu, d'ailleurs, c'est qu'il nous montre des trucs qu'on a vus dans Action Comics, des trucs qu'on a vus dans Ravagers, forcément. Et plein de choses, quoi. En fait, tout le plan de Harvest nous exposait un petit peu à la manière d'un Osborne Journal quand t'avais Norman Osborne qui t'expliquait de A à Z comment il avait organisé la saga du clone. Là c'est un peu ça sur Superboy depuis le début au fait du titre. Tu te rends compte que Harvest a tout manipulé, ça a aussi abouti à la création des Teen Titans et voilà quoi. Enfin c'est vachement intéressant, c'est vachement bien fait et franchement là Scott Lobdell m'impressionne par sa créativité et c'est impressionnant qu'il soit sur autant de titres en même temps et qu'il arrive à faire d'aussi bonnes histoires alors que il y a quelques mois je le trouvais très très faiblard et pas du tout bon. Alors c'est extraordinaire de le voir revenir comme ça. Donc même si plus personne ne lit quasiment ce titre, là je vous conseille de le prendre, ce Superboy, et ça me donne même envie de rattraper tout ce que j'ai loupé quoi sur ce titre. Donc pour moi c'est un coup de cœur quoi, méga bail cette semaine.
Très bien, écoute, si avec ça vous avez pas envie d'aller le chercher.
C'est que vous êtes très con.
Oh, bravo.
C'est du bunny, hein. Ça c'est fait.
Voilà, ça c'est fait. Un petit mot, Florent, très vite sur le Green Lantern Corps.
Ah oui, rapidement, hein, vraiment rapidement. C'est donc le Green Lantern Corps 19. Là, c'est la 10e partie de Wrath of the First Lantern où on retrouve Voltum. Allez-y.
Voltum,
bravo. Donc qui a pris en otage là tout le corps en fait, hein. Et on va voir l'intervention d'un Green Lantern bien connu qui est très très gros et qui est sphérique, qui est à peu près de la taille de la Terre, si vous voyez ce que je veux dire.
Quelle énigme.
Voilà.
Ça commence par un M, ça se termine par un O.
C'est ça, et donc c'est son grand retour dans l'univers des Green Lanterns, vu qu'il était un petit peu en petits morceaux.
Il est un petit peu mort, tué par John Stewart.
Voilà.
Ouais, le destructeur de planète.
Et donc qui va un peu leur sauver la mise, et réussir à un petit peu à faire chier Voltum. C'est pas très intéressant. On peut dire qu'au moins le schéma des numéros précédents se répète pas, donc on n'a pas toujours Voltum qui va dans l'esprit des Green Lanterns et qui va voir leur plus grand, comment aurait pu se passer leur passé, etc.
Il était temps.
Voilà, donc au moins ça avance un peu. Ça avance un peu. Par contre, la manière dont c'est fait, c'est vraiment bizarre. Comment Mogo arrive à rassembler à lui tout le Green Lantern Corps et leur redonner de la force, je trouve ça vraiment nul, quoi. Donc je vais pas vous dire ce qu'ils font, mais c'est pas génial.
Moko a toujours été important pour le recrutement quand même des Green Lanterns. Donc.
Oui, tout à fait. En gros, oui, il arrive à les remotiver, quoi, et à leur redonner de la force, quoi. Donc puisqu'on me demande mon avis et que je suis seul à avoir lu, ça sera un bon check-it parce que l'histoire avance enfin un petit peu dans un autre titre que dans le titre Green Lantern.
Bah, sachant qu'il reste plus qu'une partie dans chaque, ouais, il serait temps.
Voilà. Donc, on va dire que le statu quo de Voltoum a l'air de changer un petit peu. Voilà.
Okay.
Donc c'est un bon check-it. J'ai pas dit les crédits, mais c'est toujours Peter G. Tomasi et Fernando Passarin au dessin. Voilà.
Très bien. Mais justement, tu vas peut-être pouvoir répondre à cette question, puisque tu disais que Voltoum prenait en otage le corps, mais a-t-il aussi pris la tête ? Voilà, j'ai eu envie de la faire, j'ai pas voulu t'interrompre, je préférais la faire à la fin.
T'aurais pu la garder,
c'était à chier, hein, franchement, oui, le comédien,
tu l'as bien dessiné.
Si t'interdis pas non plus de blagues, je comprends pas.
Allez, on va passer à l'indé maintenant et on commence avec le X numéro 0, Bruno.
Oui, X numéro 0 chez Dark Horse, c'est Sur Singsy au scénario et Nguyen au dessin.
Je vais juste leur prononcer, c'est Duane Straczynski, hein, pour pas que les gens confondent avec J. Michael Straczynski.
Comment toute la bête. Le dessinateur, donc, Eric Nguyen. X, qui c'est X? X, c'est un héros avec un gros X sur la tête, mais c'est pas Cyclope. Et il a un... Il a une tenue noire et tout, et en fait, il redresse les torts, il s'en prend à des criminels. Donc, je ne connaissais pas les séries X auparavant, donc je m'y suis mis en me disant, bon, je vais peut-être comprendre qui est ce perso. Et en fait, le scénario est assez simple, en fait, puisqu'on a la pègre, qui là est représentée par trois gros bonnets, en fait, qui sont gros d'ailleurs, et qui reçoivent des menaces de mort de la part de ce fameux X, à savoir des photos représentant leur tête avec un gros X sur la tête. Et ben en fait dans ce numéro on voit comment X ce vigilante s'en prend pour les dégommer de la façon la plus crade possible. Alors ce qui est étonnant c'est que X, je sais pas si quels sont ses pouvoirs, il a l'air d'être très résistant au mal. Il a des façons assez malines de s'en prendre à ses ennemis, même si après ça devient très bourrin vers la fin. Il y a comme une sorte d'obstination à l'auteur à nous montrer des saucisses faites de corps humain, j'ai l'impression, donc c'est un peu bizarre.
Il la balade tout au long du numéro, sa saucisse, son chapelet de saucisse.
Ça me donne du coup envie d'aller voir juste par rapport à ça.
C'est un peu étonnant.
Évidemment.
C'est
la semaine de la saucisse, hein.
Et je dois dire que j'ai pas saisi la fin. Donc c'est mystérieux, c'est, je dirais pas que c'est beau parce que j'ai trouvé que c'était un petit peu décevant par moment au niveau des dessins, mais ça reste assez dynamique et bon c'est quand même assez violent donc il y en a pour son argent à ce niveau-là. Par contre c'est assez brumeux et je vous dis ouais la fin j'ai eu du mal à comprendre. Donc j'irai voir peut-être le numéro 1 quand même, voir quel va être le sujet de l'arc en question et savoir si on en saura un peu plus sur ce personnage, mais pour l'instant voilà un peu mitigé quoi. Qu'est-ce que t'en as pensé toi Florent?
C'est vraiment très beau hein. En fait on dirait que ce vigilante là X il travaille plus sur les gags, la petite scénette introductive pour quand il va débarquer. Et une fois qu'il a fait son gag et qu'il a étonné tous les méchants, bah il les tue tous. C'est tout. En une case de préférence, quoi. Genre à un moment, quoi, le mec, il a à peu près dans un hangar à peu près 20 mercenaires engagés par les gros méchants là, les fat guys. Il débarque, il fait sa blague. Et après, en une case, il arrive à buter les 15 personnes. Je sais pas. Genre, tu vois juste son fusil en train de faire des grands mouvements et tout le monde qui crève. Et c'est tout. Donc le mec, je sais pas ce qu'il a comme pouvoir, mais il a l'air très très fort avec des armes à feu pour buter 15 mercenaires armés jusqu'aux dents en une case.
Je pense que c'est ton alter ego, Bunny, en fait.
Oui, non, ça a l'air très très fun.
C'est le Bunnisher.
Surtout que moi, je me balade toujours avec un chapelet de saucisses. Autour du cou, donc
voilà.
Il est très violent et il aime bien un peu torturer les méchants, hein, quand même. Ouais, c'est.
Est-ce qu'il aime mordre les tétons des jeunes filles?
Non, il a pas l'air.
Non, il préfère leur mettre des clous dedans.
Non, je sais pas comment tu l'écris, si c'est en un mot ou en deux, mais bon. Voilà. J'en profite pour rappeler au passage que ce X0 reprend les trois petites parties qui étaient publiées dans Dark Horse Presents numéro 19 au 21. Donc si vous avez déjà les Dark Horse Presents, n'achetez pas ce X0.
Ouais. Et pour moi, c'est juste un check-it et peut-être que ça commencera vraiment dans le numéro 1, quoi.
C'est un petit check-it, mais je me rends compte qu'en fait c'est assez drôle pris un peu au second degré et en parler après, c'est assez rigolo de voir un peu ce numéro. Mais ouais, il n'y a pas d'histoire, quoi. C'est juste un gros bourrin qui va essayer, qui va tuer des gros de la paix.
Ça m'a donné envie de lire.
Moi aussi, ça m'a donné envie quand même. J'ai envie d'aller voir le truc, quoi.
C'est assez drôle, parce que c'est un peu décousu.
Allez, on va passer à la suite. C'est le Walking Dead numéro 109, Mr. Anybody.
Ouais, alors du 109, y en a-t-il dans ce Walking Dead?
Putain, waouh.
Oh, waouh, allez, oh, ça vole haut. Alors, Robert Kirkman est au scénario et Charlie Adlard est au dessin, dis donc.
C'est pas vrai.
Oh, bah, what the fuck.
Comme d'habitude, c'est extraordinaire, extraordinaire. Une série qui ne cessera de nous surprendre. Voilà. Non, sinon... sinon, Maggie... Alors, en fait, c'est un épisode
Maggie.
Maggie, bah oui, Maggie, le,
dans la série télé Maggie.
Oui, parce que voilà Maggie, c'est bien connu.
Ah, pardon.
Donc, Maggie qu'on retrouve dans cet épisode, et c'est un épisode qui, pour une bonne partie, se fait de son point de vue. Là, en fait, elle se rend compte surtout que Rick est en train vraiment de mettre en place son plan pour faire tomber Negan. Et, en fait... Au début, j'ai pensé qu'on allait voir simplement toute l'histoire du point de vue de Maggie, et non, en fait, on voit aussi un petit peu Rick, on voit un petit peu Carl, on voit un petit peu le fameux Jésus.
Mais est-ce que Maggie, elle voit souvent rouge, avec elle, ça bouge?
Dis le mec qui a été chercher les paroles très vite sur le net.
Oh, arrête, comment tu m'as trop claqué, quoi.
Elle voit un peu rouge vu le décès qu'il y a eu récemment d'une personne qui était proche d'elle. Et donc, comme elle voit rouge, elle essaye effectivement de faire bouger les choses pour que Rick aille péter la gueule à Negan. Donc, c'est pas faux. Donc, on apprend par exemple... pas mal de choses, parce que c'est un épisode très 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 verbeux, beaucoup de dialogues dans cet épisode. On apprend notamment le vrai nom de Jésus, puisque c'est pas au fait son vrai nom, c'est un pseudo qu'il a. Donc on imagine qu'Ézéchiel, c'est pareil,
il doit s'appeler Ézéchiel. C'est marqué partout.
J'ai pas compris.
Non, mais c'est pas grave. Allez, on la passe celle-ci, on évite. Il y a que Florent qui l'a à peu près compris, j'ai l'impression.
C'est pas grave. Les auditeurs jugeront. Le comité du LOL aussi. Et un épisode très intéressant, et on se rend compte comme d'habitude que une fois qu'on pense que le plan est en place et qu'il n'y a pas de problème et qu'ils sont prêts à y aller, il y a peut-être un grain de sable dans la machinerie ou une grosse couille dans le pâté, quoi. Voilà. Donc c'est un bail comme d'habitude, alors petit bail, parce que c'est vrai que c'est un épisode assez calme de Walking Dead.
Très bien, on termine la partie 1D avec le 12e épisode de Saga Florent.
Oui, donc Saga, toujours écrit par le merveilleux Brian K. Vaughan et toujours dessiné par la merveilleuse Fiona Staples. On suit dans ce numéro 12, après les événements un petit peu tragiques du 11, on suit le Prince Robot 4, qu'on n'avait pas vu depuis quelques numéros. Qui est toujours dans sa poursuite des deux amants, Marco et Alana. Si vous vous souvenez, au début de la série, il retrouve le livre à l'eau de rose que lit Alana, qu'on voit dans les premiers épisodes, mm-hmm. Un genre de navet de Bitlit. Et en fait,
viens te faire des amis toi aussi.
Non, mais c'est vraiment un truc à l'eau de rose avec un peu d'érotisme et tout. Vous voyez un peu le genre.
Ah, c'est comment tu écris Bitlit?
Comment tu écris Bitlit? Parce que justement,
B-I-T-L-I-T.
C'est comme 50 nuances de gris, quoi.
De Chiclit, si vous voulez. Il est persuadé qu'Alana et Marco se sont inspirés de ce bouquin en fait pour fomenter leur fuite. Il est persuadé que ce bouquin est un genre de chef-d'œuvre où il y a un plan caché, alors qu'en fait c'est juste un pauvre bouquin d'érotisme de merde. Et donc c'est assez rigolo cette mise en abîme sur le thème du comics, un peu un genre de Roméo et Juliette, et voilà, c'est un peu rigolo. Si vous me suivez, non,
oui,
vous avez compris
oui,
un peu
oui.
La
chose. Si, oui, non, totalement.
Donc il va aller à la recherche de l'auteur de ce bouquin. Et donc il va débarquer sur sa planète, etc. Et essayer de l'interroger pour savoir parce qu'il est persuadé que que dans ce bouquin se cachent vraiment les plans d'Alana, et le mec va lui répondre « Quoi ? Mais non, mais j'ai écrit ce bouquin, mais juste, j'avais vraiment besoin de payer des factures, quoi. C'est vraiment le pire truc que j'ai écrit. » Et le mec fait « mais non, vous pouvez pas dire ça, c'est pas de fausse modestie, c'était vraiment très bien. Vous avez fait un truc super sophistiqué. » Donc voilà, c'est assez drôle. Ce personnage était pas très très utilisé quand même, le prince robot, et c'est sympa de le suivre. On a toujours un peu de mal à rentrer dedans parce que il a une tête de télé. Donc du coup, pour faire un truc expressif avec ce personnage, c'est pas forcément facile. Donc on a forcément un peu plus de mal à s'y attacher. Néanmoins, on apprend quand même au tout début du numéro
qu'il est abonné à Canal+, quoi.
C'est ça à peu près, qui se passe en fait dans sa tête, quoi. Il est endormi et il fait un rêve, et donc on voit des quelques pénis, voilà.
On peut le dire, quelques bits, hein, c'est la marque de commerce de Comic City.
Le sujet justement de cette petite cette non polémique de censure de Saga 12 sur les appareils Apple, c'est que voilà, dans les deux premières pages, on voit dans l'écran de la télé de la tête de Prince Robot, comment dire ça,
Des bites, hein.
Un boucaquet,
Ah oui.
Voilà. Non mais très crûment, hein. Voilà.
C'est, ça a vraiment, déjà été dit, hein, dans le podcast.
Oui,
hein,
oui, boucaquet, oui.
C'est pas la première fois.
Des bites.
Du pénis. Du pénis et de la bouche grande ouverte et du sperme qui coule.
Oui, bah rappelons qu'il y a des enfants qui peuvent écouter, donc on va faire attention.
mais
en plus, c'est
très
très anecdotique parce que dans cette première scène, on voit tout le talent de Brian Kevogan. Il nous présente un personnage qui est super attachant. C'est une genre de souris humanoïde qui est soldat parce que en fait ce rêve se passe sur un champ de bataille, en fait, et il est blessé et il appelle un docteur, et ce docteur c'est ce genre de souris humanoïde qui s'est engagé dans l'armée. Et qui est très drôle, ses répliques sont très marrantes quand il parle au Prince Robot en train de le soigner, etc. Et il nous le présente à la page 1, et cette pauvre souris meurt à la page 4 d'une manière horrible et brutale, et c'est trop triste, quoi. J'étais trop révolté. J'ai fait mais pourquoi, mais il était trop mignon, elle était trop mignonne, cette petite souris, et il y a sa tête qui explose à la 4e page, et c'est horrible. Et en même temps, c'est drôle, et c'est voilà, ça te fait ressentir des trucs, quoi.
Eh ben, entre donc, les zizi, voilà. La souris explosée, et puis le personnage de Prince Robot là, avec son livre, ça me donne super envie de remettre à Saga, dis donc.
Mais non, mais je veux dire, c'est
non, mais c'est vrai, en plus. Je dégonne pas là.
Visuellement, il y a encore des trouvailles, des personnages qui sont trop marrants, mignons, tout ce que vous voulez, quoi. C'est visuellement, c'est superbe, c'est drôle, c'est peut-être un poil en dessous du précédent qui était vraiment il y avait beaucoup d'émotions, mais l'histoire avance quand même parce qu'on voit à la fin il y a un bon cliffhanger, donc c'est évidemment un énorme bail. Ça serait mon coup de cœur tous les mois, mais faut pas que ça le soit, donc je vais changer un peu, donc j'ai pris Batman ce mois-ci, mais voilà, Saga c'est un bail pour moi, et rattraper et acheter en français, en VO, tout ce que vous voulez, c'est génial.
En sachant qu'on arrive à l'épisode 12, le prochain TPB devrait sortir.
Devrait sortir en VO d'ici, ouais, un mois ou deux.
En juin.
Très rapidement. Ouais.
Allez, on va passer maintenant à la partie Marvel. On commence avec l'event Marvel actuel. C'est Age of Ultron, sorti du 5e épisode, qui est donc le dernier numéro du premier acte. C'est toute cette partie dessinée par Brian Hitch. C'est écrit par Brian Michael Bendis. C'est ancré par Paul Neary. Et on a les Vengeurs, enfin ce qu'il en reste, qui ont décidé de bouger un peu. Il serait temps. Après avoir remis un petit peu Vision sur pied et se rendre compte que c'était dans le passé, hein, que Vision est, on le sait maintenant depuis deux numéros, un petit peu derrière tout ça, eh bien on retrouve les Avengers dans le Savage Land et Tony Stark qui se dit « mince, on aurait dû faire quelque chose ». Bon, passons, ils discutent, et ils rentrent dans la caverne de Nick Fury, qui a un plan. Et oui, c'est Nick Fury, il a toujours un plan. Puis vient une scène...
Après Captain America, et maintenant c'est le plan de Nick Fury, quoi, en fait.
Vient une scène qui n'a absolument aucun intérêt. C'est la scène à Austin, Texas. Ça n'a aucun intérêt. C'est trois pages qui ne servent à rien, où on montre que Ultron va grignoter des villes peu à peu. Ouais.
Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ces trois pages. Effectivement, c'est vraiment ça n'a
Mais c'est
aucun
pas pour
intérêt.
danser la samba. Hein.
Ah, c'est pour montrer que le monde n'est pas encore totalement dépeuplé, quoi.
Ouais, mais enfin, franchement, j'ai trouvé que ça n'avait aucun intérêt, si ce n'est ralentir le rythme du récit.
Qui était déjà bien lent.
Qui était déjà bien lent. Honnêtement, on arrive à la fin de cette première partie, en se disant, ça y est, les choses vont enfin bouger, mais il a fallu attendre 5 numéros pour en arriver là. Soit 5 fois 4 dollars. Voilà. Tout ça pour en arriver là. Chose que l'on savait déjà si on a un tout petit peu regardé les sollicitations ou suivi un petit peu l'actu de Marvel.
Même qu'on pouvait deviner, carrément, quasiment.
C'est pas mal écrit, c'est pas trop mal dessiné, même si certains pages sont illégales.
C'est vraiment ce à quoi on pouvait s'attendre quand on nous a annoncé Age of Ultron. Voilà, on pouvait imaginer un truc comme ça. Pour le moment, pas trop de surprises, quoi.
Ben oui, franchement, ça reste un petit peu décevant, quoi. Ça reste un peu décevant.
Disons que les gens peuvent commencer la semaine prochaine au numéro 6. Ils demandent à un pote qui a lu les 5 premiers, qui s'est tapé, je sais pas, 24 euros de comics, ou 24 dollars de comics, de lui résumer. Il lui résume en 3 lignes, et puis voilà, il peut enchaîner sur
ça,
le numéro 6.
De toute façon, il y a les pages de résumé, hein, de toute façon.
Oui,
qui le font
façon,
très bien.
Oui, mais voilà. Mais, voilà, clairement, ça n'a pas avancé des masses. Hein.
Par contre, moi, je l'ai pas lu, mais du coup, en fait, tout ce qu'on nous avait dit, à savoir que l'histoire normalement qui était dessinée par Hitch, c'était presque une histoire complète, ça a pas l'air d'être.
Ah ben non,
le cas,
c'est pas possible.
Pas
enfin, je veux dire, ça aurait appelé une autre mini-série à suivre.
D'accord, donc il y avait vraiment besoin que quelqu'un continue cette histoire.
Moi, ce qui me fait marrer, c'est quand même Tony Stark, donc qui apparemment dit faudrait faire quelque chose, quoi. Enfin, c'est.
Non, il se dit plutôt « Ah, on aurait dû faire quelque chose avant ».
Oui, mais rappelle-toi, tu sais, quand Ultron était revenu dans l'univers Marvel, dans cet épisode point 1, là, ou point je sais plus quoi, t'avais déjà Tony Stark à la fin de l'épisode qui disait « Il faut qu'on s'organise, faut faire quelque chose avant que ça déconne, quoi, avant que Ultron fasse quelque chose ». Et là, si dans cet épisode il se dit putain faut qu'on fasse quelque chose, on aurait dû faire quelque chose. Enfin c'est étonnant quoi qu'ils aient rien fait finalement.
Bah, reste le plan d'Ultron. Moi c'est quand même ce qui me fait un petit peu continuer cette histoire, c'est que le plan d'Ultron. Bon on va en parler maintenant. C'était la semaine dernière. Voilà si vous l'avez pas lu désolé hein, pour le petit spoil, mais
bah,
le plan
vas-y,
d'Ultron de conquérir le présent alors que lui est dans le futur, je trouve que c'est une bonne idée.
Ah d'accord, c'est ça, parce que j'ai pas lu. Hein,
ça peut expliquer des choses, en tout cas, ça peut permettre d'enchaîner sur autre chose.
Voilà, c'est pour ça que l'on voit Vision. Vision est simplement le conduit qui lui permet d'agir sur les Ultronites, je sais pas trop comment les appeler, tous ces petits soldats d'Ultron. Je trouve l'idée bonne, en fait.
L'idée, c'est une sorte de Deus Ex Machina pour placer une série qui a été écrite en avance à travers le Marvel Now actuel, quoi, en fait. En gros, c'est... vas-y, on va foutre ça là, et puis on va dire que c'est le futur, mais que Ultron, grâce à ça, veut contrôler le présent, quoi.
Donc, bon, voilà, moi, je reste quand même assez déçu, finalement, de ce premier acte où ça n'a pas avancé des masses. On s'est tapé 20 dollars jusqu'à présent pour lire, pour lire que ça, quoi. Même si la lecture en elle-même des 5 épisodes n'est pas désagréable, hein, loin de là, ça fait un petit peu cher pour ce que c'est.
Bah moi je m'en suis désintéressé de toute façon. J'ai lu les 3 premiers et j'ai même oublié qu'il y avait le 5e qui sortait là, donc voilà. J'y reviendrai sans doute, mais quand ça démarrera. Quoi.
Bah peut-être la semaine prochaine, vu que changement peut-être. De dessinateur, changement de tout ça, il y a le cliffhanger de cette semaine qui fait que les choses vont bouger, qu'on va vraiment rentrer dans le deuxième acte. Je sais pas trop ce que tu en as pensé, Florent, si tu as des choses à rajouter là-dessus.
Bah moi, j'ai paraphrasé Tony Stark, on aurait dû agir avant, c'est-à-dire que mieux vaut tard que jamais qu'ils agissent. J'aimerais qu'on reparte dans le passé, qu'ils me remboursent mes 5 numéros, s'il vous plaît, avant que ça sorte, quoi, parce que c'est en gros, ils nous en sortent vraiment un par semaine, et très sincèrement, vu où on en est, ils auraient pu sortir, allez, 2 numéros, quoi. 2 numéros.
Ouais.
Ça fait une bonne introduction à l'event, et après, j'ai vraiment l'impression que là, il va se passer un truc. Genre, on a passé 5 numéros à nous expliquer un statu quo, qu'en plus, on comprend pas, on a des petits indices sur ce qui se passe, mais on comprend pas parce que voilà, où est-ce que ça se passe, comment ça se passe, quand ça se passe, pourquoi, enfin, voilà, tout le principe des Age of Ultron et les difficultés des Age of Ultron. Et on a mis 5 numéros pour nous expliquer que voilà, au 6e, il va peut-être enfin se passer un truc, ils ont un plan, ils vont agir. Voilà.
Perso, j'aurais préféré me taper 2 numéros doubles de 5,99$. La pilule aurait été moins dure à passer. Et voilà.
Ah oui, clairement. Parce qu'en plus, là, à la lecture, c'est vrai que ça se lit bien, ça se lit vite. Bendis, de toute manière, il va jamais vraiment mal écrire, ça va jamais être lourd à lire, ça se lit toujours assez facilement, quoi. Donc ouais, deux numéros doubles, oui, pourquoi pas, ouais. Ça m'aurait pas dérangé.
Hormis là, non, la scène à Austin, qui en plus d'être ouais. inutile, de casser le rythme, montre les mauvais travers de Bendis dans la discussion. T'as pas entendu ? Entendu quoi ? Mais si, j'ai entendu. Voilà.
Oui, c'est clair. Et puis bon, Brian Hitch, moi je suis pas très impressionné par Brian Hitch, quoi. Très honnêtement, ça me trouve pas le cul, quoi.
Bah voilà, c'est terminé. De toute façon, Brian Hitch, on ne le reverra plus, en tout cas pas sur Edge of Ultron.
Voilà, j'étais très content au numéro 1. Enfin, j'étais plutôt content, heureux. J'avais peur et voilà, c'était un bail au numéro 1. Et avec les numéros, ça m'a lassé, quoi. Donc ouais, voilà.
Bon bah du coup, ta note ?
Check it.
Check it, ouais, pareil. Alors... pour moi, check it, assez déçu au final, même si ça reste agréable. Allez, on passe à la suite, c'est ce fameux Ultron 1AU, un espèce de one-shot, enfin c'est pas un espèce, c'est un one-shot tout court. C'est écrit par Catherine Immonen avec au dessin Amilcar Pina. C'est un one-shot qui nous parle de Victor Mancha, pour ceux qui n'auraient jamais lu les Runaways, puisque c'est un personnage des Runaways, Victor Mancha est le fils d'Ultron. Voilà.
Ah bon ?
Oui. Bah oui, c'est comme ça.
Attends, Victor
c'est
Mancha,
un robot Ultron.
Oui,
il sort d'où
C'est un cyborg, il sort des Runaways.
C'est un androïde.
Ah d'accord, mais ah oui d'accord. Okay. Il produit du sperme Ultron.
Je ne sais pas, je ne veux pas savoir comment il était.
Non, je crois qu'il a genre kidnappé sa mère et il a inséré le machin dans le ventre. Enfin, voilà, c'est voilà.
Oui, non mais c'est le gamin est un cyborg en fait. Et on le voit survivre dans ce monde en ruine, essayer de sauver quelques enfants et voilà, bon
rejoindre sa tanière.
J'ai pas trouvé ça passionnant. Je me suis franchement emmerdé. Je n'ai jamais lu les Runaways et donc je ne suis pas attaché au personnage. Donc j'avouerai que je m'en fous un peu de ce personnage. Et l'histoire, la finalité de l'histoire n'amène rien. Donc franchement, ne perdez pas votre argent. C'est un gros pas ce truc, quoi.
Pareil.
À moins que vous soyez ultra fan du personnage, peut-être.
Ouais, pour avoir un peu des nouvelles de lui. Et encore, je dis avoir des nouvelles de lui, mais comme ça se passe dans le monde d'Ultron, si ça se trouve, ça va être complètement rectomé. Et ça n'aura. Voilà.
Joli, t'as réussi à le placer.
Comme si ça n'aura pas eu lieu, et donc en fait, ça aura servi à rien. Parce qu'en plus, c'est mal écrit, c'est pas très très joli. Donc voilà, c'est un passe.
Ouais, décidément.
Non, passe. Les tie-ins pour le moment, moi, ne me séduisent pas. On continue avec Avengers Arena numéro 7, Bruno.
Oui, Avengers Arena avec Hopeless au scénario et Viti au dessin, Alessandro Viti. Un numéro un petit peu particulier puisque on laisse un petit peu de côté ce qui se passe sur l'île pour en apprendre un petit peu plus sur Arcade.
Il était temps.
Donc voilà. Donc en fait, on a un numéro où on voit qu'Arcade, il a une vie de merde. Hein. Tout le monde se fout de sa gueule. Tous les méchants, en fait, tous les ans, en fait, Arcade, il organise une fête pour son anniversaire où il invite un peu tous les méchants de l'univers Marvel. Et c'est toujours assez con. c'est toujours pour qu'en fait, au final, il se foute de sa gueule. En même temps, du coup, Arcade, c'est aussi un personnage un peu bizarre parce que il a pas mal de soucis avec ses parents, avec ses anciennes petites copines et tout. Il est un peu fasciné par la mort, donc. Bon, tous les ans, en fait, il engage aussi quelqu'un pour l'assassiner. Il essaye d'éviter. Enfin, il aime bien jouer avec la mort.
Donc ça, fais-moi mal.
Voilà, c'est le Arcade classique. Mais en fait, ce numéro, c'est une vraie descente aux enfers puisque on voit que le personnage commence à complètement considérer qu'il est vraiment une vraie merde et il est presque au bord du suicide. Et à la fin, en fait, on a l'explication de pourquoi il organise cette Avengers Arena et comment il s'y prend et avec l'aide de qui. Et donc c'est un petit numéro que j'ai trouvé vraiment très agréable à lire, qui permet un peu de développer le personnage d'Arcade et qui lui redonne un petit peu d'éclat, puisque à la fin, il a quand même la classe. Donc un bon numéro. Même si j'étais un peu déçu de ne pas retrouver tous ces jeunes là qui étaient en train de se tuer les uns les autres là, parce que c'était quand même plutôt cool jusqu'à présent Avengers Arena. Mais donc je dirais un bail quand même, un petit bail.
On continue avec le sixième numéro d'Uncanny Avengers, Mister Anemone.
Alors, un numéro toujours par Rick Remender, mais avec Daniel Acuna au dessin. Alors, c'est peut-être moi qui ai loupé un épisode, mais je pensais que c'était toujours Olivier Coipel qu'on allait retrouver.
Non, il n'en faisait qu'un.
C'était juste un numéro.
D'accord. D'accord. Donc, un épisode très centré autour de Thor. Au fait, on a limite l'impression de lire une histoire de Thor, un petit peu, hein. Mais au fait, on assiste aux manipulations de Kang envers Apocalypse. Et
Ouais.
au fait, Kang et Ramatut, tous deux œuvrent, enfin d'ailleurs, tous deux, Kang et Ramatut étant plus ou moins la même version du personnage à différentes époques et avec une espèce de, comment dire, d'altération du personnage, quoi. Mais en tout cas, ces deux individus, comment dire, manipulent un petit peu les choses pour que
T'as
Thor
oublié de
rencontre.
préciser. T'as oublié de préciser un truc, c'est que tout le numéro se passe en 1013 en fait.
Oui, bah
Et
justement, donc.
c'est dans le passé. Voilà.
Ouais, voilà. C'est-à-dire, il manipule le temps, et donc, en l'occurrence, en 1013, Apocalypse rencontre Thor, les deux s'affrontent, et ça va entraîner quelque chose qui n'est pas bon, quoi, qui n'est pas bon pour notre univers à tous. Alors, le seul petit bémol, c'est, je me dis, à force de changer des choses comme ça dans la continuité et dans les différentes dimensions à travers l'univers Marvel, c'est un peu bizarre, quoi. On sait plus trop où donner de la tête. Bon, alors encore un gros changement, encore un gros bouleversement qui va avoir des répercussions au fait sur l'univers 616. C'est assez intéressant, mais voilà, aujourd'hui c'était plus, enfin cette semaine c'était plus un épisode centré autour de Thor, donc bon, pour moi c'est un bail quoi, mais voilà, sympa, j'ai rien de plus à dire.
Moi ça m'a mis une claque cet épisode déjà d'une part graphiquement, je trouve que ce que fait Acuna est vraiment très très bon et on voit que Jason Aaron et Rick Remender sont potes puisque il y a vraiment énormément de rapports entre ce qui se passe dedans et dans la série Thor. En particulier, on a le retour de cette fameuse bibliothèque des dieux. On a la hache qu'utilise Thor, qui a un rôle important, la hache du Thor jeune. Et voilà. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment gros blockbuster. Le combat contre Apocalypse, c'était vraiment intéressant. Il y a le retour des quatre cavaliers de l'Apocalypse, l'ancienne version qui combattent Thor. Et c'est pareil, c'était assez péchu. Non, franchement, c'est très mystérieux et ce qu'il est en train d'amener avec le personnage de Kang et ce qu'il essaye de faire avec Apocalypse, moi, ça m'intéresse. Donc voilà, ça redevient un titre là, depuis deux numéros où il y a à la fois un scénario intéressant et de beaux dessins. C'est plutôt cool, quoi.
Ouais, non mais
Un
voilà,
bail.
même avis, plutôt cool, un bail, mais par contre, voilà, j'ai juste été surpris de lire du Thor finalement, alors que à la base je voulais lire du Uncanny Avengers, quoi, c'est le seul
Ouais.
petit bémol.
Flo?
Oui, bah je c'est le premier numéro que je prends. Si j'ai le numéro 1 en gratos, mais moi j'ai pas été. Je suis pas très très. Enfin, c'est joli Acuna, mais je suis pas spécialement fan de son trait. Mais c'est vrai que c'est pas mal. Après l'histoire m'a vraiment pas passionné quoi. J'ai l'impression de lire encore du Uncanny X-Force avec du Apocalypse, du machin, tous ces trucs cosmiques qu'utilise Remender tout le temps et c'est. Enfin, c'est vraiment sa méthode d'écriture, quoi, de prendre des éléments de continuité, etc., de les bouleverser un peu. Ça m'a vraiment pas passionné, je suis pas sûr d'aller voir la suite, je sais pas, ça me donne pas spécialement envie.
Ah d'accord.
Moi, j'ai pas été, bon, pas passionné.
Pour ma part, j'ai trouvé que c'était un bon numéro. C'est vrai que, comme tu l'as très bien dit, Bruno, on a véritablement l'impression de lire un épisode de Thor. Si on pourrait se planter, moi en me lisant, je me suis dit, merde, je me suis trompé.
Ouais,
Ah non.
presque, ouais.
Et effectivement, bon, en même temps, on savait qu'on aurait la rencontre entre Thor et Apocalypse, ça avait été teasé déjà, donc.
Apocalypse Now.
Ouais, non, j'ai pas de vanne à faire en fait. Je voulais essayer de rebondir, mais j'ai rien. Du coup, ouais, un très bon épisode. Daniel Acuna toujours aussi efficace. Franchement, j'ai hâte de lire la suite aussi. Effectivement, la série devient bonne à partir du numéro 5. Ce qui n'était pas si compliqué que ça au vu des quatre premiers. Ouais, je suis méchant, je sais. Donc voilà, pour moi aussi, un bail, cet épisode. Voilà, très bon. Flo, du coup,
Check it.
check it, ouais, Bruno.
Bye.
Et Benny, bye, hein, tu l'as dit. On va
Ouais, bye.
continuer sur Thor, justement, Florent, puisque tu as lu le numéro 7.
Oui, le retour d'Essa Dribitch au dessin, donc Jason Aaron toujours au scénario, et donc Essa Dribitch de retour. Ça ouvre sur le Thor du passé. Si je remets les choses en place, il y a les trois Thors, le Thor du passé, du présent et du futur. Le Thor du passé qui va se battre à nouveau contre Gore et qui va se faire kidnapper par Gore. Et qui va devenir son esclave sur sa planète la planète où Gore échafaude un plan machiavélique. Petit bonus sur la scène d'ouverture où en gros Thor il se réveille d'une orgie quoi. Enfin, avec deux nanas et c'est d'ailleurs très bien écrit et très drôle. Et on retrouve également sur un autre plan d'existence le Thor du futur et le Thor du présent qui sont dans le futur. Donc, enfin, le Thor du présent est allé dans le futur et ils vont se préparer pour aller attaquer Gore. En fait, il reste plus que deux. Ils y vont vraiment à la wall again. Pour se préparer, c'est marrant. Il y a le Thor du futur qui lui dit je vais te montrer une pièce spéciale où il va y avoir un truc pour te préparer, pour être plus fort et tout. Il pousse le Thor du présent et fait j'ai jamais eu le droit d'y aller, c'est uniquement Odin qui pouvait y aller. Il pousse deux portes très très lourdes. Et là, qu'est-ce qu'il découvre? Non pas une armurerie, non pas des artefacts magiques, mais la cave à vin et à pinard et à alcool. des maîtres et des maîtres de vin et de bière et tout. Donc c'est très très drôle.
Est-ce qu'ils font des plats à la plancha là-bas?
et voilà, et le cliffhanger est très très impressionnant et annonce du gros et nous explique un petit peu le titre de cet arc qui s'appelle God Bomb. Voilà, la dernière page est très évocatrice. C'est excellent, c'est superbe, c'est très très bien écrit, c'est à la fois épique et drôle, voilà, c'est un bail.
Ok, on continue avec le 9e épisode de Hawkeye, forcément Mr. Ren et Bunny.
Oui, donc fallait faire la vanne, fallait faire Hawkeye. Matt Fraction est au scénario, David Aja est au dessin. Alors je vais faire très vite, c'est un épisode au fait où centré un petit peu sur toutes les femmes qui tournent autour de Clint Barton, donc Natasha Romanoff, Mockingbird, Spider-Woman hein, récemment, puisqu'elle a flirté un petit peu avec lui, et même Kate Bishop. D'une certaine manière et donc du coup voilà en fait c'est une intrigue qui rassemble un petit peu toutes ces femmes ça devient quand même néanmoins de plus en plus sombre en fait c'est pas encore super sombre hein, c'est toujours assez fun et assez frais comme titre mais il y a de plus en plus de noirceur dans le scénario, il y a cette fin qui est un petit peu brutale et donc voilà c'est toujours un plaisir de lire ça, c'est un bon bail même si j'espère que ça va pas se durcir et que ça va rester toujours un petit peu plus dans la petite blague quoi, dans le léger, enfin voilà.
La phrase amenait, je pensais qu'il y avait une fin de phrase.
Non, mais voilà.
Parce que tu veux, ça amène dans le léger et ça s'arrête comme ça.
J'espère que ça va rester en fait dans ce ton léger plutôt que ça devienne un truc assez sombre quoi.
Ok, donc un bail.
Ouais, tout à fait.
Effectivement. On continue avec Secret Avengers numéro 3, passons d'un Hawkeye à un autre, ou en tout cas à une autre série où il est présent. C'est Nick Spencer qui écrit, Luke Ross est au dessin, c'est l'épisode 3, je ne l'ai pas précisé. On a une convention d'armes hein, qui se passe aux États-Unis, non ce n'est pas le LCF, à laquelle sont présents Nick Fury, la nouvelle version bien sûr, hein, le Nick Fury Junior, et Daisy Johnson, directeur du SHIELD. Ils sont là pour repérer un petit peu tout ce qu'il y a comme armement, et puis parce qu'il faut quand même que le SHIELD soit présent durant ce genre de convention, et ils s'aperçoivent que le militaire, en tout cas le gouvernement américain, a pu mettre la main sur le Iron Patriot. Et oui, vous en rappelez-vous, hein, cette armure de Norman Osborn. Et ouais. Du coup, le gouvernement américain est très content puisque enfin ils peuvent avoir à leur disposition un morceau de la technologie Stark hein, qu'ils essayent d'obtenir depuis très longtemps. De l'autre côté, sur le Helicarrier, on ouvre avec une scène qui m'a fait extrêmement rire. On a une case où on voit en gros un panneau où il marque il n'y a pas eu d'accident, enfin il n'y a pas eu de crash du Helicarrier depuis 192 jours.
Ah oui, comme à l'entrée des usines, il n'y a pas eu d'accident.
Exactement. Voilà, ça m'a fait marrer, quoi. C'est vrai que le Lee Carrier est toujours en train de se cracher dans tous les comics, donc bon.
D'ailleurs, ça me semble un peu abusé parce que je pense que il y a encore 3 semaines, il se crachait à nouveau. Donc, si ça fait déjà 192 jours, il se fout vraiment de notre gueule, hein, le Shield. Hein, c'est pas possible.
Et on voit donc cette équipe de nouveaux Secret Avengers hein, qui ont, rappelez-vous, ces histoires de souvenirs qui leur sont bloqués, des missions qu'ils ne peuvent pas se rappeler, qui sont en briefing par Maria Hill. Et on voit donc nouveaux membres arriver dans l'équipe, Mockingbird. Mockingbird qui a donc un passé amoureux avec Hawkeye, mais Hawkeye est lui maintenant avec Black Widow, on est véritablement dans du soap. Et Mockingbird qui en profite pour utiliser la nouvelle technologie du Shield, une technologie de camouflage, hein, une espèce d'inducteur holographique, hein, comme Beast par exemple utilisé dans les X-Men pendant très longtemps et qui prenait la place de Black Widow pour se foutre de sa gueule. On va avoir vraiment deux histoires en parallèle. D'un côté, l'équipe avec Hawkeye qui va intervenir sur cette nouvelle nation de l'AIM qui provoque des problèmes. Hein. Cette nation dont on avait parlé, dont je ne me rappelle plus le nom, là, qui fait maintenant partie de l'organisation de l'ONU.
Et ouais, de l'autre côté, Barbuda, là, je sais pas
ouais,
quoi.
Voilà, c'est ça. Et de l'autre côté, l'AIM qui vient à cette convention d'armes où sont présents Nick Fury et Daisy Johnson et qui vient en tant que délégation d'un membre d'un pays, une délégation diplomatique. Mais bien sûr, les choses ne se passent pas forcément bien. Tout ça va amener à un plan de l'AIM que je vous laisse découvrir sur la fin. Une fin plutôt sympathique, même si on peut s'en douter déjà dès les premières pages finalement. Donc encore une fois, un très bon épisode. Cette série est vraiment très sympa, très rafraîchissante. On est dans la pure série d'espionnage. Nick Spencer prend son temps pour placer les choses, mais ça avance quand même. Donc pour moi, c'est un bail. Voilà, j'ai été un petit peu long, le temps de réexpliquer tout ça. On va passer à la suite. C'est le Avenging Spider-Man numéro 19, Bruno.
Avenging Spider-Man numéro 19, c'est Yost au scénario et Marco Cecchetto au dessin, avec une très belle couverture de Paolo Rivera qui présente un méchant, plutôt un gentil en fait que je ne connaissais pas, qui s'appelle le Sleepwalker, un héros a priori assez
somnambule.
Ancien. Voilà, le somnambule, qui est censé un peu protéger les gens dans leur sommeil. Et en fait, on a un méchant qui s'en est pris à Spider-Man, à Supérieur Spider-Man, et qui est en train de l'attaquer dans ses rêves, un peu comme Freddy. Et le Sleepwalker vient pour l'aider. Sauf que le problème, c'est que du coup, le Sleepwalker se met à voir un petit peu à quoi rêve Supérieur Spider-Man, et il trouve ça un petit peu bizarre, puisqu'il y a énormément de métaphores par rapport à des sortes de pieuvres et autres choses en rapport avec Docteur Octopus. Donc,
disons-le, il rêve du Rotsuki Doji, le pauvre.
Voilà, oui, par exemple. Ouais.
Et, il reste couche avec Tante May.
Tu ne crois pas si bien dire, curieux. Puisqu'on on voit une scène avec Tante May à ce propos. Et on a également un petit peu plus d'infos sur l'enfance de Octopus, qui a l'air d'avoir eu un père, comme d'habitude, un père qui bat son enfant, hein, comme dans beaucoup de personnages de comics. Un numéro très bien dessiné, mais que j'ai trouvé un petit peu anecdotique. Et puis, je suis passé un petit peu à côté parce que je connaissais pas le personnage du somnambule. Et du coup, j'ai peut-être manqué certaines choses. On peut clairement se passer de ce numéro, puisqu'il n'y a pas non plus le fameux fil conducteur qu'on a depuis plusieurs numéros dans Avenging Spider-Man. Donc voilà, je dirais juste un check-it et de très beaux dessins quand même de Cecchetto. Voilà.
On continue avec le Uncanny X-Men numéro 4, Benny.
Et juste avant ça, j'allais dire que si Marvel faisait les New 52, il nous ferait une série sur le Sleepwalker, à mon avis. mais bon, Uncanny X-Men, donc par Brian Michael Bendis et Chris Bacalo, bien sûr. Alors un épisode, je vais le dire tout de suite, très très chiant. Honnêtement, qui m'a beaucoup barbé. En gros, donc Cyclope a débarqué à l'Institut Xavier, enfin ex-Institut Xavier, nouvel Institut Jean Grey, voilà, vous m'avez compris, la Jean Grey School. Il vient recruter des nouveaux élèves. Je vais pas dire qui il va ramener, mais apparemment, donc d'après ce que j'ai cru comprendre, il a dû déjà trouver quelqu'un dans le dernier All New X-Men que je n'ai pas lu.
Mais oui,
expliquer rapidement, toute la première moitié de Uncanny se passe pendant le All New X-Men. Il y a même des scènes qui sont refaites en fait.
Ah d'accord. Je ne le lirai pas dans ce cas-là, puisque déjà que ça m'a pas passionné.
Je pense que ça te permet d'avoir le dialogue entre Cyclope et les membres, puisque là c'est vraiment un dialogue entre Emma et les Cuckoos quoi.
Oui, c'est chiant. Alors, en tout cas, le dialogue entre Emma et les Cuckoos, mis à part justement faire coucou. C'était sympa, mais j'avais pas envie de les revoir. Et puis alors, ce qui se passe avec Magic, mais alors je m'en fous, mais alors d'une force. Mais alors X-Force, quoi, tu vois, vraiment...
Oh là là, oh non, non, celle-ci, non, celle-ci, non.
Si, si, d'une force, mais phénoménale, c'est, enfin, vraiment, aucun intérêt, quoi. Bendis fait une grosse parenthèse dans ses intrigues, mais c'est la parenthèse pas inattendue, mais la parenthèse inintéressante. Donc, à zapper, quoi.
Je vais juste contrebalancer un petit peu, c'est logique... Puisque jusqu'à présent, on avait vu tous les autres qui avaient des problèmes de pouvoir suite à la possession du Phénix. Magic, pour moi, on n'en avait pas eu. Donc forcément que ça dérape un peu avec elle, ça me paraît logique. Maintenant, est-ce vraiment un problème de pouvoir dû au Phénix ou est-ce autre chose? Moi, ça me paraît logique, quoi.
Oui, c'est logique, mais inintéressant pour ma part. Hein. Moi, je m'en fous complètement. À la rigueur, qu'elle disparaisse, quoi. Et puis voilà. Donc voilà, un pass malheureusement pour cette série qui avait si bien commencé et j'espère que ça va revenir vers quelque chose de plus intéressant incessamment sous peu.
Bah, moi je suis pas forcément d'accord avec toi concernant la scène de dialogue entre les Cuckoos et Emma. Elle est certes un peu trop longue, ça je veux bien l'avouer, mais la scène est intéressante de par l'évolution d'Emma et l'évolution des Cuckoos. C'est là, Bendis appuie un peu sur ce point, ce qui est une bonne chose, je trouve, puisqu'il y avait besoin d'un petit coup de balai dans cette relation où on avait ces espèces de clones d'Emma élevés par elle.
Bref. Ouais.
Voilà, ça permet de faire avancer un petit peu les choses, puisque les choses avaient été dites, mais dans tellement de numéros que là, on a vraiment un bon refresh sur leur relation entre elles. Bon, après, le reste, moi, toutes les scènes avec les gamins m'ont insupporté, et je trouve que Cyclope est quand même sacrément gonflé de venir recruter à Westchester Academy. Bon, bref. Ça reste mon avis. Flo, une petite pensée ?
Ouais, une pensée. Bah, en fait, la première moitié m'a tellement pas passionné que j'avais oublié que j'avais pas lu la deuxième moitié. Donc, j'allais donner mon avis et après, je me suis rendu compte en le feuilletant que, non, en fait, me demandez pas mon avis, j'ai pas fini de le lire.
Non, pas
passionnant. Bah, le problème, c'est que ça se passe en même temps que All New X-Men 10 et All New X-Men 10, honnêtement, est plus intéressant. L'histoire avance. Donc voilà, les deux séries se rencontrent, donc bon, mais ça va repartir, je pense. Mais celui-ci, ouais, est pas génial, quoi, mais ça va.
Au moins, il y a un effort de continuité, quoi. Au moins, les deux séries se passent en même temps, elles sortent à une semaine d'intervalle et on ne revoit pas que les mêmes scènes.
À ce niveau-là, c'est cool, quoi. C'est fluide, en fait.
Bah, pour une fois.
C'est fluide. Mais après, voilà, j'ai préféré l'épisode de la semaine dernière et.
Ouais, bah, pour moi, ce sera un check-it. Mmh. Un check-it, ouais. Flo, du coup, même si tu n'en as eu que la moitié sur ce que t'as lu, c'est passe plutôt.
Non, c'est check it parce que c'est bien écrit et puis ouais, voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas vu Emma Stone. parler au Cuckoo.
Tu l'avais pas vu la semaine dernière, Emma Stone.
Voilà.
Pourtant, elle est venue.
Et donc, Benny, tu l'as dit, c'est un passe pour toi.
Ouais.
On termine avec le deuxième épisode de Wolverine, Bruno.
Ouais, Paul Cornell au scénario, Alan Davis au dessin, donc la série Wolverine n'en est qu'au numéro 2. Et déjà, je suis assez captivé, parce que j'ai beau ne pas être un fan des dessins d'Alan Davis, je trouve que ce qu'écrit Paul Cornell est assez intéressant. On avait quitté un Wolverine qui était un petit peu énervé parce qu'il s'était fait avoir par un petit gamin qui a l'air d'être un meurtrier, hein, qui possède une arme capable de désintégrer un petit peu les gens et qui tire un peu sur tout le monde comme ça. Wolverine est persuadé qu'en fait le gamin n'est pas maître de ses actions et donc le poursuit et essaye de savoir un peu ce qui se passe derrière tout ça. Et effectivement, très rapidement, hein, dès le début, on voit qu'il y a quelqu'un d'autre qui parle au travers de ce gamin et on se demande vraiment qui ça peut être. Puisqu'il a l'air d'être assez puissant, donc un gars qui contrôle l'esprit. Là, Wolverine fait des suppositions, mais il n'arrive pas à trouver qui ça peut être. Et le gamin, de façon très étonnante, cherche en fait à faire intervenir quelqu'un. Et donc on a l'apparition d'un autre personnage de Nick Fury Jr. qui intervient dans l'histoire, mais c'est pas lui en fait qui voulait attirer. La personne qui veut attirer, c'est une personne qu'on voit à la fin du numéro, et là j'ai trouvé ça assez bizarre. Même si le cliff, je l'ai trouvé un petit peu décevant dans le sens où c'est un petit peu le même cliff qu'on a à la fin de Nova numéro 2, donc voilà. Mais sinon c'est super intéressant et Alan Davis, je commence à m'y faire un petit peu et c'est pas mal. Ça me paraissait beaucoup moins old school l'ambiance, quoique on a quand même droit à une voiture du Shield avec les roues qui se mettent à l'horizontale comme dans Mask.
C'est génial.
que j'ai trouvé très très old school, mais ça c'était drôle. Voilà. Pour moi c'est un bail.
Ok, on termine cette semaine de sortie avec le coin TPB. premier TPB de la semaine, Mind Management, volume 1 en hardcover, qui contient les 6 premiers épisodes de la série. Florent, c'est une série que tu lis, toi, je crois. Hein.
J'ai lu l'épisode 7 qui fait un bon résumé du truc, et c'est vrai que c'est assez étrange. C'est écrit et dessiné par Matt Kint, mais c'est, j'avoue que j'ai pas suivi la suite, en fait.
D'accord.
Mais le postulat de départ a l'air intéressant. Je vais peut-être rattraper sur ce hardcover. C'est vraiment barré, hein. C'est vraiment barré. Et visuellement, c'est un peu comme du Jeff Lemire, quoi, mais en un peu moins joli.
Oui, mais c'est pour ça qu'ils sont très potes aussi, hein. Ils se connaissent bien. Voilà. Enfin, ce sont des auteurs qui ont commencé.
C'est pas conseillé à tout le monde. C'est vraiment très très indé. Hein. Le dessin est très très indé. Y a pas plus, quoi.
Ils avaient commencé ensemble chez Top Shelf. Voilà, ouais. Ce sont des potes justement d'indé, et ça se ressent dans leur style. Le hardcover est à 19,99. Autre sortie de la semaine, c'est le 100 Bullets volume 4 en édition Deluxe, qui reprend donc le numéro 59 à 80, c'est donc l'avant-dernier volume, c'est au prix de $50, une série que Bunny adore.
Bah, que j'aime beaucoup, ouais, même si au fait, à partir de ces numéros-là, ça se complexifie et j'avoue que j'ai un petit peu perdu le fil et que je vais devoir relire certains épisodes pour ainsi aussi terminer la série, puisque je suis jamais arrivé à bout, en fait, de ce titre, qui vient d'ailleurs de se terminer en français, donc oui. Bah, ça tombe bien, je vais peut-être m'y atteler bientôt.
Voilà, et si vous aimez la VO, cette édition est vraiment superbe. C'est celle que je prends, je la lis, et je vais foncer sur cette sortie, parce que l'édition est superbe, c'est un peu cher, mais vous aurez 5 très beaux volumes avec toute la série.
Ouais. Ouais, c'est un petit peu l'édition ultime, donc pour tous les fans hardcore de cette série.
C'est à $50. On continue toujours chez DC avec la sortie du premier TP de World's Finest, qui contient les épisodes 0 à 5, au prix de $15, une série que tu aimes bien, Bruno.
Ouais, c'est pas mal, c'est très lent et un méchant très peu charismatique, mais une bonne alchimie entre Huntress et Power Girl.
Oh bah, ça donne envie, dis donc.
Écrit par Paul Levitz et dessiné par George Perez. Du côté de chez IDW, nous avons la sortie du premier TP de Judge Dredd, la nouvelle version, hein, la version américaine écrite par Dwayne Swierczynski, qui reprend les 5 premiers épisodes, si je vois bien j'arrive bien à lire.
Bah, y en a que 5 de sortie, hein, je crois, d'ailleurs.
Bah ouais, non, ça me semble bizarre, le fait de le voir déjà arriver, ce TP.
Surtout vu le prix, en fait, c'est exactement le même prix en TP et en single, donc c'est...
Bah, peut-être que certains singles deviennent plus durs à trouver à certains endroits, c'est pour ça. Bon, bah, en tout cas, c'est à $20.
En tout cas, c'est très bien. La série, moi, je la trouve très bonne.
Bon, voilà. Continuons sur du Judge Dredd, toujours chez IDW. Nous avons le Judge Dredd Complete Carlos Esquera en hardcover, premier volume. Ça vaut $50. C'est donc celui qui a créé Judge Dredd. Ce sont donc des reprints du tout début, remis en noir et blanc, bien sûr, hein, et qui contient beaucoup de séries si vous n'avez pas les Complete Case Files.
Ouais, bah voilà, c'est ça, bah t'as bien résumé, hein. Enfin, là, c'est juste le Carlos Esquera, donc je pense qu'il y a eu pas mal de monde, au fait, sur les débuts, donc là, c'est vraiment une sélection autour de cet auteur, mais bon, pourquoi pas. Par contre, effectivement, peut-être privilégier les Complete Case Files, parce que là, 50, ça fait quand même beaucoup, quoi.
Oui, je ne sais pas d'ailleurs combien de pages fait le bouquin, je n'ai pas trouvé l'info.
Ben, il en a fait pas mal en même temps, donc je sais pas. Mais ce qui me fait un petit peu peur, c'est de voir un volume 1, alors je me dis, bon, après,
et
faut...
En même temps, les Complete Case Files sont des éditions anglaises, là, ce sont des éditions américaines, et peut-être qu'aux États-Unis, ils sont plus durs à trouver, hein, ces Case Files.
Ouais.
En tout cas, pour les lecteurs français qui peuvent trouver un petit peu tout, bah voilà, vous avez le choix de l'édition et de ce que vous voulez prendre comme bouquin. Pour terminer, chez IDW, nous avons la sortie du Star Trek Countdown to Darkness, une série que tu avais commencé à lire, que tu n'as pas fini, hein, Bruno.
Ouais.
Par Roberto Orci et David Messina. Pourquoi je le mentionne? C'est parce que c'est assez rare, mais le TPB sort le même jour que sort le 4e single.
Ouais, et il sort à un prix un petit peu cher, je trouve, parce que...
$18.
Moi, ça coûte plus cher en TP qu'en single, là, pour ce coup-ci. Et par contre, l'histoire est vraiment sympa, et j'ai lu les 3 premiers numéros, et franchement, c'est cool. Et si vous avez aimé le premier film, ça donne envie, après, de plonger directement dans le deuxième.
Bah, peut-être aussi que dans cette édition, il y a des petits sketchs, des petits
bonus,
tout ça.
Oui, c'est possible, J'ai pas eu l'occasion de la feuilleter.
Enfin, chez Marvel, signalons la sortie du Essential Iron Man volume 5 qui contient Iron Man, donc la première série de 68, numéro 62 à 75 et 77 à 87, ainsi que le troisième annuel. C'est au prix de $20. Voilà.
Parfait.
C'est du noir et blanc, hein, pour ceux qui se demandent. La collection Edson Scholl sont des vieux reprints en noir et blanc, mais le dessin de ces années-là se correspond très bien en noir et blanc. Ça se lit vraiment très bien.
Ouais, non, mais enfin, de toute façon, c'est bien de ressortir effectivement pour pas cher, hein, quand même, parce qu'on a vraiment beaucoup de lectures là dans ce cas-là pour 20 $. Et puis, ça nous permet de relire un petit peu tous ces épisodes classiques autour du personnage. Donc,
bien sûr, et puis principalement des dessins de Gil Kane à cette époque, hein, donc mine de rien, ça vaut quand même le coup.
Ouais, tout à fait.
Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine pour une prochaine vague de sorties VO. Vous nous retrouvez mardi aussi pour les news, le Weekly News qui fait son grand retour la semaine prochaine, après une semaine aussi d'arrêt du OLCF. Et puis, vous nous suivez sur la page Facebook, sur le Twitter, où vous nous envoyez des mails à l'adresse podcast@comiccity. Et enfin, vous pouvez retrouver tous les anciens épisodes sur le site comiccity.fr ou sur iTunes. D'ici la semaine prochaine, comme d'habitude, portez-vous bien et lisez plein de comics.
Ouais,
lisez plein de comics.
Mais toi, bisous.